Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Vous le savez, le lundi avec le Gratin, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et le mercredi, dans ces fameuses leçons, donc je réponds à vos questions, vos auditeurs, sur des sujets variés autour de l'entrepreneuriat, du marketing, du développement personnel, des RH, de la finance et du business de façon générale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette leçon Elora. Elora qui est étudiante et qui vient tout juste de créer avec un ami une marque de soupe artisanale et bio nommée Kos. Avec cette marque, leur souhait est de proposer vraiment des produits pour manger bien, vite et sain. Tout un programme, vous pouvez l'imaginer, et je vous mets bien évidemment toutes les références dans les notes de l'épisode. Alors Elora et son compagnon bouillonnent d'idées et de perspectives de développement pour leur marque, mais ne peuvent pas s'y consacrer à 100% de leur temps étant encore étudiants. Ils ne souhaitent pas se précipiter, mais ils veulent quand même faire avancer le projet le plus vite qu'ils peuvent pour ne pas se faire rattraper par la concurrence. C'est le fameux sujet de multiplier les activités en même temps, être slasher. Bref, Elora me pose la question suivante, comment jongler avec la création d'une entreprise lorsqu'on a encore une activité principale à côté. Un sujet qui me parle, vous le savez, puisque j'ai moi-même deux activités et j'ai donc essayé dans cette leçon de répondre au mieux aux questions d'Elora. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Elora ?
Bonjour Pauline.
Salut, bienvenue sur la leçon du gratin. Je suis ravie de t'accueillir Elora. Est-ce que tu pourrais commencer s'il te plaît par te présenter et puis ensuite me poser ta question s'il te plaît ?
Avec plaisir. Donc déjà merci de me recevoir. J'ai 20 ans. Et récemment, il y a 6 mois, j'ai créé une entreprise avec mon copain à la suite du confinement.
Hyper cool, bravo. À 20 ans, je peux dire que moi, j'étais à mille lieues de créer des boîtes.
Et donc, en fait, pour parler un peu de cette entreprise qui s'appelle Kos, on fabrique des soupes bio artisanales pour ceux qui veulent, comme nous, manger bien vite et sain. On est parti de ce constat-là. Donc, concrètement, on se retrouve avec pas mal de choses à découvrir et à gérer depuis la production, l'approvisionnement, les fournisseurs. Le service client, un peu de marketing, les réseaux sociaux. On découvre tout ça. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais il se trouve aussi qu'à 20 ans, on a des années d'études encore devant nous, une vie associative, du sport, des choses à faire en dehors. D'où ma question, comment gérer la création d'une entreprise, surtout quand on part avec peu de moyens, peu d'informations, et une activité principale pour notre part, les études, et sûrement pour d'autres personnes, un job à part entière.
Eh ben écoute, je te remercie pour ta question parce que je trouve qu'elle est super intéressante. Et alors déjà pour je sais pas si ça va te rassurer, mais en tout cas te dire ce que je pense à ce sujet, c'est que certes toi ça t'arrive parce que t'es étudiante et donc t'as effectivement une grosse activité à côté, mais en fait ça peut être un job, ça peut être le fait d'être parent, ça peut être juste le fait, tu disais, de faire beaucoup de sport. Tu vois, finalement le fait de conjuguer l'entrepreneuriat, la création de boîte avec une autre activité importante dans sa vie, sincèrement en fait ça arrive à énormément de monde. Et il y a un peu souvent cette image d'Épinal, tu vois, de l'entrepreneur qui se lance, il a tout claqué derrière lui, il se lance à 400% dans sa boîte, qui est l'image un peu américaine, je trouve, tu vois, de Steve Jobs qui se met dans son garage et qui fait que ça matin, midi et soir. Ça arrive, c'est vrai. Faut aussi dire une réalité, c'est que ça, c'est possible seulement quand t'as les moyens de le faire, tu vois, que t'as des parents qui te soutiennent ou que t'as économisé suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Donc, déjà, la première chose, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas de honte, bien au contraire, à avoir une activité en parallèle de sa création de boîte. Et au contraire, je trouve ça personnellement plutôt sain parce que je trouve que ça permet de relativiser bien souvent les choses qui t'arrivent dans ton aventure entrepreneuriale et d'autre part de te baquer aussi, tu vois, si jamais ta boîte marche pas, t'auras pas tout claqué. Et typiquement, moi je te conseillerais, jusqu'à ce que tu sois sûr que la boîte est vraiment un énorme succès, je te conseillerais de continuer tes études parce que tu vois, on sait jamais. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec toi, même si c'est pas vraiment la question. Ensuite, comment conjuguer ça avec, enfin, du coup, la création d'entreprise avec une grosse autre activité, c'est un vrai sujet. Je pense pas qu'il y ait de réponse unique. Je pense que, enfin, moi, en tout cas, la manière dont je le fais pour moi, parce que du coup, j'ai aussi deux activités qui me prennent toutes les deux beaucoup de temps, le gratin et Gémeo. Bah, en fait, j'ai commencé, en fait, vraiment les choses par étapes. C'est-à-dire que j'ai commencé par me dire quelles sont les choses qui sont absolument indispensables dans les deux cas de figure, c'est-à-dire dans les deux activités. Quelles sont les choses où je sais que je vais devoir y consacrer du temps. Donc, d'une certaine manière, tu vois, lister un peu de manière efficace quelles sont mes grandes priorités pour chacune de ces deux activités. Et ça m'a permis de me dire, bah, tu vois, typiquement pour le podcast, il y a un truc qui compte, c'est je veux absolument pouvoir faire mes épisodes une fois par semaine. Donc déjà, il me faut ce temps-là. Je veux faire mes leçons une fois par semaine. Donc il me faut ce temps-là. Ensuite, le reste, si tu veux, c'était un peu du bonus. À l'inverse, pour Gémeo, il y avait plein de choses que je savais qui étaient importantes. Typiquement, passer du temps avec les équipes, tu vois, le management, qu'il me fallait du temps pour tout ce qui était communication, relations presse. Ça, je sais que ça me prend énormément de temps. Donc, en gros, j'ai listé les choses qui me paraissaient assez indispensables et j'ai essayé un petit peu de qualifier combien de temps par semaine finalement j'allais pouvoir affecter à l'un et à l'autre. Et ça m'a permis de commencer à me faire une petite idée et de me dire bah en fait le gratin globalement il me faut tant d'heures par semaine et Gémeo il me faut à peu près tant d'heures par semaine. Et donc j'ai essayé d'avoir si tu veux une vision qui est juste hyper lucide et là-dessus il faut être un petit peu self-aware comme ils disent nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire avoir un petit peu de recul tu vois sur soi-même et sur son activité et se dire bah concrètement qu'est-ce que je peux casser, qu'est-ce que je peux pas casser. Je te donne un autre exemple. Moi, quand j'ai lancé Gémeo, j'étais encore en école de commerce. Donc, en fait, ta vie, je l'ai complètement vécue. Et du coup, ben, moi, je vais être tout à fait honnête et je devrais peut-être pas le dire, mais il y a plein de cours auxquels je n'allais pas parce que j'estimais que c'était pas des cours indispensables. Je demandais à mes potes de m'envoyer les cours et je pouvais les rattraper, tu vois, et ça me prenait moins de temps. À l'inverse, il y avait des cours où je savais que c'était indispensable. Je savais même que c'était utile pour ma boîte. Et du coup, j'y allais. Et donc, en fait, je faisais des arbitrages un peu permanents pour essayer, ben, de commencer, si tu veux, à m'impliquer de plus en plus sur Gémeo. Tout en étant encore, tout en ne voulant pas renoncer à ma dernière année d'études, parce que c'est ça qui me permettait aussi d'avoir mon diplôme. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, je pense que la deuxième chose, c'est de se dire, malheureusement, quand on essaye de faire deux choses en même temps, il y a une réalité, c'est que bien souvent, ben, on a un peu la sensation de faire un peu tout pas très bien, parce qu'en fait, on passe pas assez de temps, toi, en l'occurrence, sur tes études, et pas assez de temps sur sa boîte. Cette frustration, en fait, c'est une frustration qui est réelle, qui existe pour tout le monde. Moi, je la vis aussi, clairement. Mais en revanche, c'est pas grave, premièrement, parce que c'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps. Et à un moment donné, tu vas peut-être pouvoir décider que, en fait, non, tu vois, tu vas pouvoir passer 100% de ton temps sur ta boîte, ou à l'inverse, ta boîte va se planter. Et du coup, tu vas pouvoir passer 100% de ton temps sur tes études. Et du coup, tout ça, ce sont des choses, si tu veux, qui se résolvent dans le temps. C'est juste que il faut en avoir conscience, il faut un peu l'accepter, mais il faut pas se laisser abattre. Et puis surtout, il faut du coup agir. J'ai toujours un biais pour l'action et pour agir. Concrètement, ben, comme je te le disais précédemment, il faut essayer de prioriser sur ce qui compte vraiment. En gros, si tu veux, le fait d'avoir deux activités, forcément, ça veut dire que tu vas faire des choix. Ça veut dire que tu vas devoir te concentrer vraiment sur l'essentiel. Et du coup, ça a presque de la valeur. Moi, j'estime que je suis beaucoup plus productive parce que j'ai deux activités. Parce qu'en réalité, du coup, il y a tout un certain nombre de choses qui sont un peu nice to have, que je pourrais faire, mais en fait, comme je sais que j'ai pas le temps et je suis obligée d'arbitrer et de faire uniquement ce qui est réellement utile ou ce qui va réellement marcher, bah du coup, en fait, en permanence, je me dis, ça, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et donc, je me pose toujours cette question et ça me permet, si tu veux, d'aller d'une certaine manière droit au but. Alors, de temps en temps, je me plante, de temps en temps, j'ai pas choisi, si tu veux, la bonne priorité, mais en tout cas, j'essaye. Et donc voilà, ça permet vraiment, je trouve, de plus prioriser. Donc, je sais pas si ça répond un peu à ta question, mais là, en tout cas, je vais te donner de grands principes qui t'aident, je pense, un, à te rassurer sur le fait que c'est tout à fait normal de d'une certaine manière, être tiraillé en permanence. Et puis d'autre part, se dire, bah, la solution, c'est quoi? C'est un, de l'accepter, mais deux, de se dire, ok, c'est bon, sur quoi est-ce que je priorise? Et à chaque fois, de couper ce qui n'est pas essentiel. Vraiment, vraiment, de te concentrer uniquement sur ce qui est essentiel, parce que juste tu n'auras pas le temps de faire le reste, tu n'auras pas le temps de faire ce qui n'est pas absolument essentiel, et du coup ça tu le laisses pour plus tard, pour quand tu auras des équipes, tu vois, pour le gérer par exemple.
Oui, ça répond bien à ma question, mais la différence c'est que nous on en est au début, on n'est que deux, et c'est compliqué en fait d'essayer de prioriser et de... Tout débute, donc en gros tout est important. C'est ça qui pose assez problème. Et un deuxième problème qu'on rencontre, donc là, c'est plutôt parce qu'on est étudiant, donc on est sur un campus, on est quand même assez restreint dans ses déplacements, rencontrer des fournisseurs, même aller à la rencontre des clients. Donc à nouveau, la question qui se pose, c'est est-ce que ça ne mériterait pas qu'on attende la fin de nos études ou juste de tout ralentir? Est-ce qu'on ne se précipiterait pas aussi?
Tu peux tout à fait. Moi, ce que je trouve, en tout cas, moi, je te dis, bah, du coup, je te parle de mon exemple personnel. Quand j'étais dans mon école de commerce, le fait d'avoir Gémio en parallèle fait que, effectivement, j'ai pas du tout été aux soirées, j'ai pas passé beaucoup de temps avec mes potes, j'ai clairement pas bénéficié, si tu veux, de tout un certain nombre de choses que les étudiants qui sont sur le campus tout le temps vont, tu vois, avoir. Et donc, je suis passée quand même à côté un peu de cette dernière année d'études parce que j'étais très, très focalisée sur Gémio. À l'inverse, si je te donne le positif, et comme ça, après, tu pourras faire ton arbitrage, tout ce que j'apprenais en cours, tous les cours que j'avais, je les liais à mon activité professionnelle. Et du coup, ça a été extrêmement riche pour moi d'enseignement. En plus, c'était une majeure, c'était HEC entrepreneur, donc tout, c'était très orienté, tu vois, entrepreneuriat. Mais en gros, tous les cours de compta, de fiscalité, tous les cours de levée de fonds, même de... Alors, il n'y a pas vraiment de cours de management, mais tu vois, de création d'entreprise, tu vois, comment dire, légale, etc., la partie administrative, tout ça, en fait, comme j'avais un exemple concret, parce que j'avais bah, mon case study, tu vois, mon activité réelle avec Gémio, ça me permettait, je trouve, de beaucoup mieux l'appréhender, de beaucoup mieux le comprendre et ensuite, surtout, de le mettre en œuvre dans mon entreprise. Et donc, je dirais que, clairement, j'ai moins bénéficié de la vie d'étudiante, ça a été assez difficile et j'ai été tiraillée en termes de temps et j'ai eu un peu la sensation d'avoir une année très dure. Mais à l'inverse, je sais aussi que j'ai finalement beaucoup plus tiré d'enseignement de cette période parce que j'avais mon entreprise. Et donc, plutôt, si tu veux que ça reste théorique, si tu veux, bah, en fait, non. Moi, j'avais cet exemple concret qui faisait que tout ce que j'apprenais, bah, en fait, direct, je me disais, ah ouais, mais voilà, en fait, la comptabilité, comment je peux l'appliquer à mon entreprise. Et donc, ça a quand même une certaine valeur, je trouve, de réussir à faire les deux en même temps.
Mais tu étais déjà dans un processus de création. Enfin, ton entreprise était déjà lancée ou tu étais en création?
Les deux, enfin, si tu veux, dans un processus de création, au début, tu vends pas, enfin, en fait, t'es en train de créer ta boîte, mais souvent, tu ne vends pas dès le premier jour. Donc, nous, tu vois, le temps de créer le site internet, de commencer à trouver nos premiers fournisseurs. Tout ce processus-là s'est fait pendant que j'étais en école de commerce et les premières ventes sont arrivées chemin faisant, mais ne sont pas arrivées, si tu veux, le premier jour de l'école de commerce. Tu vois, c'est arrivé au bout de quelques mois. Donc, je pense que sincèrement, on était à un stade très similaire de celui que tu vis aujourd'hui, qui était que justement, enfin, j'avais effectivement cette activité d'étudiante et puis que de temps en temps, je séchais les cours très concrètement pour aller chercher des fournisseurs et je l'essayais de les batcher. Mais une fois de plus, mon message, c'est de dire. Si jamais t'es pas à l'aise, ne le fais pas, tu vois, tu peux tout à fait attendre. C'est pas impossible, en revanche. C'est pas du tout impossible. Moi, je l'ai fait. Tu peux tout à fait réussir à le faire. C'est juste que si tu le fais, ça va t'apprendre. Et je pense que c'est une bonne vertu et quelque chose que tu peux garder pour la suite comme vraiment un super enseignement. C'est que ça va te forcer à regrouper tes activités, à être beaucoup plus productive et à batcher. Parce que tu vois, typiquement, si tu sais que tu veux chercher un fournisseur, bah, plutôt que de l'étaler sur 3 semaines, ça va te forcer à mettre des deadlines. Et nous, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Gémio, hein. Comme on n'avait pas le temps, bah, finalement, on a été obligé d'avancer très, très vite sur l'entreprise. Parfois, d'aller peut-être un peu trop vite et d'être un peu imprécis. Mais à l'inverse, au moins, on a beaucoup avancé. Et donc, ensuite, on a vu assez rapidement le résultat de nos actions. Donc, tu vois, par exemple, pour les fournisseurs, bah, je faisais 40 calls par jour les jours où je pouvais me permettre de le faire. Parce que j'avais pas de temps de procrastiner, tu vois. Donc, en fait, c'est ça ce que je veux dire. C'est quand t'as deux activités en même temps, c'est très dur mentalement, psychologiquement, c'est très dur aussi physiquement parce que tu travailles beaucoup. Mais à l'inverse, en fait, comme tu n'as pas le choix, tu es obligé d'avancer, tu procrastines pas et tu avances beaucoup plus vite. Donc après, j'ai envie de te dire, c'est à toi de voir si tu as envie d'avoir une année de fin d'études qui est plus cool, ce que je comprendrais complètement. Moi, ça a été le cas, tu vois, pour ma deuxième année, par exemple, et auquel cas, bah, attends. Mais il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Dis-toi que le fait de le faire en fin d'année n'est pas rédhibitoire, tu peux tout à fait y arriver.
Je vois. Et après, donc j'ai une question sur ce que tu dis qui rejoint un sujet que t'aimes beaucoup, je pense, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. En tant qu'étudiante, actuellement, mon copain Simon et moi sommes en M1 et L3, donc on est quand même relativement jeune dans le processus d'études. Quelle crédibilité on a? Est-ce que c'est pas aussi compliqué, c'est une vraie difficulté qu'on rencontre, d'aller voir des fournisseurs, d'aller voir des clients et d'être encore étudiant?
Complètement.
Les gens qui sont encore en entreprise, qui ne sont pas à part entière entrepreneurs.
Complètement, je suis d'accord. C'est un vrai sujet et là aussi, c'est pas évident. Mais en fait, je t'assure que tu peux y arriver. Je te promets, je te garantis. J'ai déjà vu, mais tu vois le nombre de personnes qui ont réussi à créer des boîtes, même quand ils étaient encore étudiants. Il y a une phrase assez connue aux États-Unis. Ils disent « fake it until you make it ». Les gens ne sont pas obligés de savoir que t'es étudiante, ne sont pas obligés de savoir que t'as 20 ans. Si jamais t'as de la stature, que t'es sûre de toi, que t'en imposes, que t'es commerciale, que tu essayes peut-être un petit peu de te vieillir, tu vois. Je te dis pas de te grimer, je te dis pas de mentir. Si les gens te posent la question, tu pourras dire la vérité. Mais en fait, si tu agis comme une étudiante qui a 20 ans et qui sent un syndrome de l'imposteur, ça va tout de suite se ressentir. Si à l'inverse, t'as vraiment envie que ça marche, tu fais en sorte de, tu vois, respirer un bon coup avant d'entrer dans une salle de réunion et de montrer que t'es sûr de toi et que tu sais ce que tu veux, surtout, et que tu, on va pas te la faire à l'envers, bah, à ce moment-là, sincèrement, les gens, ils vont te considérer d'égal à égal. Et en fait, je pense que la chance que t'as, c'est que autant il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était peut-être pas évident d'être face à des personnes plus âgées quand on essayait de démarrer une activité. Maintenant, il y a tellement d'exemples, notamment aux États-Unis, de jeunes qui, mais au contraire, ont réussi à faire des innovations incroyables, que sincèrement, la génération, tu vois, des trentenaires, quarantenaires, même cinquantenaires, elle est quand même beaucoup plus ouverte, je trouve, à l'idée de travailler avec des jeunes parce qu'ils se rendent compte aussi de leurs propres limites. Alors, c'est plus ou moins facile dans différents secteurs d'activité. Dans des secteurs d'activité tech, digitaux, c'est très facile. Dans des secteurs d'activité plus industriels, comme moi, c'était le cas en joaillerie, c'est plus difficile. Mais tu vois, moi, j'étais pas aussi jeune que toi, j'avais peut-être 26 ans. Mais à 26 ans, une jeune femme dans le secteur de la joaillerie, et je fais plutôt pas mon âge, donc je pense que j'avais plutôt l'air d'avoir 22, 23 ans, c'était pas évident. Et pour autant, bah, j'ai réussi à parler à des dirigeants d'ateliers, tu vois, qui ont 60 personnes, juste parce que j'avais pas envie de lâcher, que j'avais vraiment mais une hargne, si tu veux, de juste parler aux gens, que j'avais pas envie de me laisser faire et que je voulais juste me donner à fond. Et que j'avais envie de tout donner. Et pour ça, bah, j'ai testé plein de choses, de pas de me vieillir, mais tu vois, peut-être de me maquiller un petit peu plus, peut-être d'essayer en tout cas de me forcer à être plus sûre de moi. Au fond, évidemment, j'étais terrorisée. Mais la réalité, c'est que bah, ça se voyait pas parce que j'essayais de faire en sorte, tu vois, de parler fort, de pas parler avec les mains et de leur dire, bah, voilà ce que je veux, c'est moi le client, etc. Et en fait, ça les a, je pense, finalement un peu séduits. Et puis, ils se sont dit, si cette petite... tu vois, à l'âge qu'elle a, elle arrive à avoir ce leadership, bah franchement, j'ai envie de bosser avec elle parce que dans 5 ans, quand elle sera encore plus âgée, franchement, ça va donner encore de meilleurs résultats. Et donc, au contraire, si tu veux, pour moi, l'âge est souvent vécu comme un complexe, mais vois-le comme une force. En plus, il faut l'assumer, il faut que tu te dises, mais les personnes avec lesquelles tu parles, surtout si elles sont plus âgées, en fait, il y a plein de trucs sur lesquels elles sont complètement à la masse. Les réseaux sociaux, évidemment. Alors, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est bon aux réseaux sociaux, mais globalement, eux, en général, c'est pas tellement leur truc. Donc, toi, que t'es de bons instincts sur le digital, sur tout ce qui est réseaux sociaux, sur le marketing web, sur tous ces aspects-là, sur l'innovation, enfin, franchement, en fait, tu as une carte à jouer, une vraie différenciation, et je pense que tu peux l'assumer beaucoup plus que d'en avoir peur et d'en souffrir comme d'un syndrome de l'imposteur. Au contraire, ça peut même être un moyen de leur apporter une valeur ajoutée en leur disant, bah, écoutez les gars, nous, on est en train de dépoussiérer un secteur, on veut le moderniser, et c'est plutôt en étant jeune qu'on va réussir à le faire plutôt que si jamais ça faisait 40 ans qu'on bossait dans le secteur, ça serait plus difficile, tu vois.
Oui, je vois. En plus, ouais, on est parti du principe qu'on était des étudiants, et que la soupe, c'était quelque chose qui était sain, rapide, pratique à réchauffer. Et donc, c'est complètement cohérent avec le message qu'on veut véhiculer. On parle de notre expérience à nous en tant que jeune étudiant de 20 ans.
Exactement. Mais je pense qu'en fait, il faut que tu te vois comme étudiant parce que c'est ton produit et que tu ouais. vas vendre à ces clients-là. Mais la réalité, c'est que si jamais tu crées une boîte, il faut que tu commences à penser comme un CEO. Il faut que tu commences à penser comme un entrepreneur. Et en fait, certes, t'es étudiante, mais t'es entrepreneur. Et ça, en fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de statut. C'est juste que t'as une vision, t'as un projet et que tu veux faire en sorte que ce projet devienne une réalité. Et en fait, si tu veux, à la rigueur, tout le reste, c'est annexe. Que t'es 45 ans, 30 ans, 20 ans, 18 ans, franchement, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce que tu fais pour que ça fonctionne? Comment est-ce que tu fais pour que ton idée devienne quelque chose de concret dans la vie réelle? Et franchement, si jamais tu arrives à avoir une vision qui est suffisamment convaincante, je pense que personne ne te dira « vous êtes trop jeune ». Et puis s'ils te le disent, bah, juste tant pis pour eux, j'ai envie de te dire « t'en trouveras d'autres », tu vois. C'est pas le sujet. Donc je pense que c'est presque plus quelque chose que tu as dans ta tête. Et toi, tu me dis « t'es étudiante », presque comme si c'était un complexe, mais en fait, tu as tout à fait la légitimité, même si, enfin, étudiante ou pas, ça n'est pas le sujet. Si tu as une vision, tu as une envie. Pour l'instant, t'es pas formé, mais personne n'apprend à être entrepreneur. Être entrepreneur, ça s'apprend sur le tas. Qu'on ait été employé, qu'on ait été, tu vois, à l'arrière, les seuls qui savent être entrepreneur, c'est les anciens entrepreneurs, ceux qui l'ont déjà fait. Mais en fait, c'est pas parce que t'es étudiante que t'es moins qualifiée que quelqu'un d'autre.
Je vois, je vois. Et après, j'avais une autre question au niveau des activités. Donc, c'est peut-être moins propre à mon cas. Mais quand tu expliquais, toi, que tu as lancé le gratin en parallèle de Gémio, par exemple, comment tu vas marier les deux? Est-ce que tu vas parler à tes collaborateurs de Gémio, du gratin, ou est-ce que c'est deux mondes que tu cherches à garder un peu distincts?
Alors moi, je les garde un peu distants, mais la réalité, c'est que les deux se mêlent quand même beaucoup. Et moi, je suis vraiment pour la transparence. Donc tu vois, au début de l'histoire du gratin, comme c'était encore une toute petite activité, que je le faisais juste night and weekends, en fait, ils étaient au courant, ils étaient informés, mais en fait, je le faisais pas pendant mes horaires de travail. Au contraire, j'avais une assez forte discipline pour faire en sorte de vraiment pas mélanger les deux. Il se trouve qu'en fait, la vie a fait que les deux se mêlent parce que les auditeurs du gratin parfois deviennent clients Gémio, que des clients Gémio deviennent auditeurs du gratin. Enfin, il y a plein de choses en fait qui font que ça se mêle. Et du coup, aujourd'hui, maintenant les choses sont beaucoup plus claires. Mes collaborateurs savent évidemment que j'ai les deux activités, même qu'en fait je travaille de temps en temps sur le gratin depuis les bureaux Gémio, que j'ai des équipes qui travaillent avec moi chez Gémio sur le gratin. J'ai la chance d'être dirigeante et propriétaire d'entreprise, donc d'une certaine manière, si tu veux, je peux le décider. Enfin, je me suis mis d'accord avec mon associé, mais globalement, c'est moi qui le décide. Et du coup, en fait, pour moi, l'important, c'est juste d'être transparent, de pas mentir évidemment, parce que ça, évidemment, si tu fais ça, tu vas complètement briser le lien de confiance. Et donc, je pense qu'il faut juste dire la vérité, tu vois, à tes collaborateurs. Ne pas essayer de camoufler quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux te donner. Être super transparente sur le fait que, bah, pour l'instant, tu sais pas si tu vas bosser 3 jours par semaine sur l'un, 2 jours par semaine sur l'autre, mais que tu verras en marchant, tu vas apprendre et qu'avec le temps, tu vas peut-être clarifier les choses. Donc, je pense que de façon générale, et ça, c'est un conseil que je peux donner sur ce sujet, mais de façon générale, sur le management, faut pas penser que les gens sont stupides. Faut arrêter de les prendre pour des cons. Et en fait, si jamais tu fais quelque chose que t'en, ou même à l'inverse, que tu sais pas exactement où tu vas, bah, je pense qu'il faut pas hésiter à être honnête, tu vois, et le dire à tes collaborateurs proches, parce qu'en fait, ils le sentent. Et il vaut beaucoup mieux que les choses soient dites en amont, donc prévenir que guérir, parce que sinon, s'ils ont l'impression d'une certaine manière de s'être fait flouer, de s'être fait avoir, parce que tu leur as dit quelque chose et qu'en fait, tu fais l'inverse, bah, sincèrement, les choses vont beaucoup moins bien se passer. Donc l'idée, c'est tout simplement que quand tu dis quelque chose, tu le fais. Et quand tu sais pas, bah, tu le dis, tu vois, c'est pas grave.
Ça marche, ça marche.
Bon. Écoute, en tout cas, je pense que la vraie décision pour toi, c'est de te dire, est-ce que tu as envie de le faire maintenant ou pas? Il y a peut-être une question aussi qu'on n'a pas abordée, qui est la question du timing. Si tu penses que tu es sur un sujet, si tu veux, ou vraiment... Si tu le fais pas maintenant, tu vas passer à côté d'une opportunité parce que tu vois qu'il y a beaucoup de concurrents qui se jettent sur ce sujet. Bah, à ce moment-là, il faut peut-être que tu te dises, bah non, en fait, il faut que je le fasse maintenant. Si jamais c'est pas le cas, effectivement, et que t'as plutôt envie de profiter de ta dernière année, rien ne t'empêche, tu vois, d'attendre. En tout cas, moi, mon point, c'était de dire, c'est tout à fait possible de le faire, mais après, j'en reviens toujours à la même histoire qui est ma marotte, comme tu sais, qui est que c'est un choix, et que il y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est juste ta décision, tu vois, de te dire, bah, en fait, est-ce que j'ai envie de le faire maintenant ou pas? Et je pense que pour moi, la clé, c'est un, est-ce que t'as envie? Et deux, est-ce que au niveau du timing, il y a une vraie valeur ajoutée à le faire maintenant? Dans les arguments pour, comme je te le disais, c'est le fait que tu le fasses maintenant va faire que probablement tout ce que tu apprends à l'école va être beaucoup plus applicable à ton business. Ça, c'est le premier argument pour. Et l'autre argument pour, c'est aussi, ben, si ça va aller plus vite, quoi, tout simplement. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir lancer l'activité plus rapidement. Après, à l'inverse, les points négatifs, ben, ça va être que, du coup, tu vas être plus tiraillé, tu vas être plus fatigué et que tu vas un peu moins profiter des deux, et notamment de ton année étudiante, parce que, ben, tu vas un peu passer à côté, hein, c'est sûr.
Ça, c'est pas très grave. Non, oui, mais super, merci pour avoir récapitulé, parce qu'en effet, nous, ce qui nous posait problème, c'était pas tant de le faire, parce qu'on a vraiment envie et on est presque impatient, on a envie de s'y mettre à 100%, mais c'est juste que c'est techniquement pas possible de s'y mettre à 100%. Donc, je pense qu'on va travailler comme ça sur les priorités, essayer de bien se partager les tâches, tout en continuant à aller en cours, parce que moi, c'est pas ma dernière année, il m'en reste plusieurs à valider quand même.
Eh ben, je pense que c'est la bonne solution. De toute façon, tu sais, je te le dis, hein, là, c'est en fait ta contrainte, c'est le fait d'être étudiante. Mais dis-toi que si c'était 20 ans plus tard et que t'as un enfant, bah en fait, t'auras une vie de famille et c'est pareil. En fait, tu vas pas pouvoir te consacrer à ta boîte à 100%. En fait, personne ne peut se consacrer à sa boîte à 100% quasiment, à part si jamais t'as 25 ans, que t'es richissime, que tu payes pas de loyer, que t'as pas besoin de gagner ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est pas grave, il faut juste que tu l'acceptes, que tu l'assumes, et du coup, mon conseil, c'est priorise, priorise, priorise. À chaque fois que tu te lances dans une décision, pose-toi la question, est-ce que je fais est vraiment essentiel, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être supprimé? Et tu vas te rendre compte qu'en réalité, mais 80% des choses qu'on pense importantes ne le sont pas et doivent être supprimées, et se concentrer sur l'essentiel, c'est probablement la tâche la plus importante et la plus difficile de l'entrepreneur.
Très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour tes conseils.
Eh bien, oui. Écoute, pas de quoi, Laura. Tiens-moi au courant, ça me ferait plaisir de savoir quelle a été ta décision finale. Et puis, du coup, bonne chance pour cette année haute en couleurs avec ton associé.
Merci beaucoup, Pauline.
À bientôt.
À bientôt.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi, peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.